Il est juste 6h30 à Nairobi, 3h30 en temps universel, et vous écoutez Radio France Internationale.
Édouard Dupénouat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une première demi-heure africaine commence sur RFI. Le journal au Kenya d'abord. Fin de visite pour Gary Conille, le premier ministre haïtien. Occasion d'annoncer le renforcement imminent de la force multinationale de police déployée dans son pays. Émotion et début de colère à Soweto, en Afrique du Sud. 5 enfants sont morts, peut-être intoxiqués par de la nourriture avariée. Les habitants accusent les commerces informels tenus souvent par des étrangers. Les associations comoriennes de défense des droits des femmes s'indigne des réquisitions contre 2 femmes accusées d'avoir eu une relation sexuelle. Elles demandent qu'on s'occupe des violences que subissent les Comoriennes au quotidien plutôt que de ce qui se passe dans l'intimité. Kinshasa rend hommage à Mutombo Dikembe, infranchissable muraille de la NBA décédée fin septembre. Et puis le Cameroun gagne sur les terrains de foot mais les coulisses brûlent. Marc Brice, le sélectionneur, menace de démissionner. Son adjoint n'a pas eu accès hier au banc de touche. La mission de police multinationale déployée en Haïti devrait voir ses effectifs fortement augmenter dans les semaines qui viennent. Le Premier ministre Gary Conille rencontrait hier à Nairobi le président William Ruto. Le Kenya dirige cette force déployée depuis le mois de juin pour essayer d'endiguer la violence des gangs dans le pays caribéen. Mais l'augmentation des troupes sur place ne devrait pas régler les problèmes de fond auxquels cette mission fait déjà face, celui du financement en particulier. Les deux dirigeants, Gaël Lalex, aimeraient voir plus d'implication de la part des autres partenaires.
600 Kenyans sont en train d'achever leur entraînement pour être déployés le mois prochain. William Ruto veut ainsi montrer sa détermination à mener à bien cette mission, une volonté qu'il aimerait également voir chez d'autres partenaires.
Les Émirats Arabes Unis se sont engagés à soutenir cette mission. Le Salvador s'est aussi engagé la semaine dernière à fournir des capacités. Nous pouvons faire plus, mais les partenaires doivent s'investir. C'est le moment d'intensifier leurs efforts et c'est le moment de fournir ce soutien critique dont nous avons besoin pour mener à bien cette mission.
130 millions de dollars manquent encore au budget de la MMAS. Pourtant, son mandat a été prolongé fin septembre par le Conseil de sécurité de l'ONU. Gary Conille, le premier ministre haïtien, aimerait que les finances suivent, car les promesses sont nombreuses, mais rarement concrétisées.
Après l'Assemblée générale de l'ONU à New York, nous avons eu de nombreuses rencontres avec des partenaires. L'Union européenne, par exemple, a doublé ses promesses. On parle de nouveaux partenaires comme le Brésil, le Mexique. Mais on voudrait voir une réponse plus rapide et on va continuer à pousser pour cela.
Pour assurer un financement pérenne de la MMAS, les États-Unis souhaitaient la transformer en mission de maintien de la paix de l'ONU. Ils ont finalement reculé face au refus de la Russie et de la Chine. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Les observateurs de l'Union européenne se montrent critiques sur l'équité du scrutin qui s'est tenu cette semaine au Mozambique. Il y a eu un net favoritisme pour le parti au pouvoir lors de la campagne. C'est ce que dit cette mission d'observation de l'Union européenne 2 jours après les élections générales. Le parti qui aurait bénéficié d'une utilisation indue des ressources de l'État, c'est ce que dit aussi cette chef de mission, Laura Ballarin. L'opposant, Venancio Mondlane, avait dénoncé dès le jour du vote des irrégularités de la part du Frelimo, le parti au pouvoir depuis un demi-siècle. Les résultats de ces élections sont attendus dans les semaines qui viennent. Le township de Soweto, en Afrique du Sud, endeuillé par la mort suspecte de 5 enfants. Les faits remontent au week-end dernier dans le quartier de Naledi, des jeunes décédés brutalement après avoir été pris de symptômes qui font penser à une intoxication alimentaire. Un 6e se trouve encore dans un état grave. L'enquête de police se concentre sur la nourriture que ces enfants auraient consommée. Leur famille évoque des frites vendues par des petites échoppes de quartier. Ce ne sont pour l'heure que des suspicions, mais qui entraînent déjà un sentiment de colère contre ces magasins informels, Claire Bargelès.
Ces enfants avaient entre 6 et 9 ans et ont été pris de vomissements et de maux de ventre en rentrant chez eux. Ils sont décédés quelques instants plus tard. Ils auraient tous consommé des encas vendus dans leur rue. Un drame bien trop familier pour le quartier puisque l'année dernière, 2 enfants étaient morts après avoir mangé des biscuits achetés dans ces boutiques locales. Cependant, les tests menés par la ville de Johannesburg avaient montré que ces gâteaux n'étaient pas toxiques. Ces nouveaux décès ont en tout cas attiré la colère sur les Spaza Shop, ces petits magasins présents dans les townships et pour beaucoup tenus par des étrangers, souvent d'origine éthiopienne, somalienne, bangladaise ou pakistanaise. Dans un pays où la tentation xénophobe est grande, des membres de la communauté appellent à la fermeture de ces boutiques et certains ont même forcé cette semaine des commerçants à plier bagages. La ministre ANC rattachée à la présidence, Kumunzo Tshaveni, a réagi en encourageant les résidents à ne rien acheter dans des magasins qui ne sont pas recensés auprès de la municipalité. Les funérailles de ces 5 enfants sont prévues ce dimanche. Claire Barjolès, Johannesburg, RFI.
Les défenseurs des droits humains aux Comores inquiets après les réquisitions de justice contre 2 femmes suspectées d'homosexualité. Le tribunal correctionnel de Moroni a réclamé hier 2 ans de prison, dont 1 ferme, contre ces femmes accusées, je cite, de faits à caractère sexuel contraires aux bonnes mœurs et contre nature. Elles sont en détention depuis le mois de juin dernier. Mais les associations, et en particulier pour la défense des droits des femmes, déplorent cette judiciarisation de la vie privée. Elles estiment surtout que le combat devrait porter contre les violences sexuelles que subissent les Comoriennes. Bien plus grave, nous dit Arfan Salim Abdou, elle est membre du collectif IMA, en pointe sur le sujet.
Le jugement de ces 2 jeunes femmes me paraît quand même assez préoccupant, parce que chaque individu a droit à la dignité et à la liberté de vivre sa vie privée sans craindre d'être jugé ou persécuté. La vie intime de 2 adultes ne devrait pas devenir une affaire judiciaire, surtout lorsque tant de victimes de crimes graves attendent que justice leur soit rendue. Les priorités de notre justice doivent être recentrées sur la lutte contre les violences qui déstabilisent notre pays, comme les assassinats et les viols ou le non-respect des droits humains. La protection des droits humains et la sécurité des citoyens doivent primer sur toute autre considération. Il est temps de garantir que notre justice serve à protéger les citoyens contre les véritables menaces plutôt que de s'immiscer dans la vie privée de personnes qui ne font de mal à personne.
Arfan Salim Abdou, membre du collectif IMA contre les violences faites aux femmes, elle répondait à notre correspondant Abdallah Mzembaba. Le verdict est attendu dans 1 mois, le 14 novembre. Vous écoutez RFI, il est 23h37 à Atlanta et c'est dans cette ville américaine de l'état de Géorgie que la dépouille de Mutombo Dikembe sera portée en terre aujourd'hui. Le basketteur, gloire de la NBA dans les années 90-2000, ancien pivot des Nuggets de Denver, a succombé à un cancer. Il y a 2 semaines, il avait 58 ans et il n'y a pas que les parquets qui le laissent orphelin. Il avait gardé au cœur sa République démocratique du Congo natale, lui le natif de Barumbu, à côté de Kinshasa. Des obsèques lui seront rendues aujourd'hui d'ailleurs à l'hôpital Marie-Biamba Mutombo, dont il avait financé la construction. Le gymnase, jumelé au Stade des Martyrs, va désormais porter son nom. Gymnase où une cérémonie d'hommage lui était d'ailleurs rendue hier soir. Olga Massangou.
Un podium au centre du parquet du gymnase jumelé, des portraits de Mutombo Dikembe partout au Stade des Martyrs, sportifs, membres de famille, amis et connaissances, des nombreux Kinois ont rendu toute la nuit un hommage mérité à l'icône de la NBA. D'ailleurs, pour immortaliser à jamais son nom, le gymnase jumelé construit à l'occasion des 9e Jeux de la Francophonie est baptisé en son nom et une statue de 2 mètres de longueur conçue par les étudiants de l'Académie de Beaux-Arts lui sera également dédiée. Jean-Jacques Mutombo Dikembe a laissé un lourd et important héritage, selon Gégé Kizubanata, président de la Fédération de basketball sur fauteuil, l'une des révélations de son camp de basketball organisé en Afrique du Sud en 2002.
Je me pointe devant vous aujourd'hui comme président parce que je suis passé par les mains de Dikembe Mutombo. Je me rappelle encore en 2002, il était venu à Kinshasa prendre des jeunes et j'étais parmi les jeunes qu'il avait eu à sélectionner pour partir avec lui.
La nièce de l'illustre disparu qui a grandi à Kinshasa se souvient des visites de Mutombo Dikembe en famille à chaque fois qu'il venait à Kinshasa.
Il a fini de jouer en 2009, je me souviens, j'étais encore à l'école, mais j'ai quand même quelques souvenirs, je sais que des fois il venait avec ses vareuses.
Le programme prévoit notamment la décoration à titre posthume de Mutombo Dikembe et une messe d'action de grâce au moment où, à Atlanta, sera portée en terre sa dépouille. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
La République démocratique du Congo qu'avait quitté hier le nouveau représentant spécial de l'Union européenne chargé des Grands Lacs, Johan Borkstam, qui a poursuivi sa visite dans la région. Hier, il s'est rendu à Kigali, au Rwanda, où il a été reçu par le ministre de la Défense, puis par le chef d'État, Paul Kagame. Selon un très bref communiqué sur le réseau X, anciennement Twitter, il s'est agi d'une rencontre au sujet de la situation sécuritaire régionale. La visite du diplomate européen continue aujourd'hui pour la dernière journée. Il ne reste que 2 rencontres à jouer aujourd'hui toujours pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN. Guinée-Éthiopie, 16h TU battue, suivie de Maroc, Centrafrique, 3 heures plus tard. La journée d'hier était beaucoup plus prolixe en nombre de matchs. Très belle opération des Comores, victoire 1-0 sur la Tunisie. Les champions ivoiriens ont corrigé la Sierra Leone, 4-1. Même score exactement pour le Cameroun face au Kenya, malgré une énième controverse entre la fédération et la sélection des Lions Indomptables. Joachim Mounounga, l'adjoint de Marc Brice, a été interdit de banc de touche parce que son nom ne figurait pas sur la liste envoyée par la fédération au commissaire de la rencontre. Une fois de plus, dit Marc Brice, et je démissionne.
Je suis très 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 fâché. Il y a 2 semaines, on a commencé de travailler ensemble avec FECAFOOT. Je dois dire, c'est très bien passé. Vraiment, honnêtement, j'avais peur parce que c'était pas du tout en bonne relation. J'étais étonné devant le match. Il y a toujours le commissaire du match, tu donnes votre joueur, votre liste, ceux qui commencent, ceux qui sont sur le banc. Et encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos, de faire une liste et pas mettre mes assistants dedans. Alors, je te promets, si ça arrive encore une fois, et c'est une déclaration, j'arrête immédiatement. C'est le 4e ou le 5e fois, pas la première fois. Celui qui prend des décisions, qui est sur le banc ou pas, c'est moi. Alors tu dois respecter ça et pas faire des choses derrière mon dos.
La colère froide de Marc Brice, recueillie par notre correspondant Joël Wadem.
Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenoit.
Il est 4h41 à Yaoundé, une heure de moins en temps universel. 3 grandes étapes culturelles avant le journal de 4h. À Abidjan, dans une minute, pour une exposition ivoiro-guadeloupéenne. RFI reçoit aussi l'écrivain et journaliste Howard French, auteur d'une enquête historique sur la construction de l'Occident contemporain, comment elle s'est faite sur le dos de l'Afrique. Et puis ce soir, c'est Fela Day, reportage avec les adeptes de l'afrobeat, qu'ils aient connu ou non Fela Kuti lui-même. À suivre également notre entretien du samedi avec les confrères de Jeune Afrique, ce sera dans 5 minutes. Première escale culturelle donc, en Côte d'Ivoire, à la galerie Cécile Fakouri. Même si vous connaissez ce lieu d'exposition, vous auriez du mal à la reconnaître actuellement, vu les transformations qu'elle a subies pour accueillir l'exposition d'Eladj Lincy de Loumo. Ce peintre guadeloupéen a transformé le lieu jusque fin décembre pour proposer de découvrir ses œuvres. Au-delà du jardin, il y a la mer. C'est le titre de cette exposition qui mêle peinture et sculpture et que Marine Janin nous propose de visiter.
L'exposition se veut d'abord immersive. Les décors d'étoiles sont répliqués sur les murs, couverts d'argile ocre ou de carreaux de salle de bain. Elle est aussi interactive puisque le visiteur est invité à manipuler l'étoile sur un panneau coulissant, à s'observer dans une œuvre pourvue d'un miroir ou à marcher sur une sculpture en forme de puits. Toute cette scénographie, soigneusement étudiée, est le résultat d'un travail de famille, révèle Rosie Noah, manager à la galerie Cécile Fakouri.
La scénographie, elle a été pensée en grande partie par sa petite sœur, Orlane Nancy de Loumo, architecte d'intérieur. Donc ils ont vraiment pensé toute cette scénographie ensemble et elle est construite en 3 étapes, 3 espaces. Il y a un peu cette idée de circularité aussi où on a cassé les murs, certains murs de la galerie pour créer des arrondis. Et on a transformé la galerie, on n'a pas du tout l'habitude de le faire. Donc ça a été un gros travail, mais c'est vraiment magnifique.
Les matériaux utilisés sont guadeloupéens ou ivoiriens, du bronze, du bois, du rotin, du sable. Pour cette exposition, Eladj Lincy de Loumo a effectué une résidence artistique de 4 mois dans la ville côtière de Grand Bassam. Il mêle les références culturelles des deux territoires à travers les motifs du littoral, de la mer et du jardin.
Le jardin, c'est un espace familier, connu, quelque chose de très intime. J'ai eu l'opportunité de rencontrer pas mal de personnes qui ont quitté leur pays d'origine, leur zone de confort familier, pour pouvoir se diriger vers l'horizon en prenant la mer et explorer d'autres territoires. Et ce qui m'intéresse, c'est comment, en fait, malgré ces changements de territoire, de culture, d'ambiance, comment, en fait, ils ont pu créer leur propre intimité en y apportant du chez soi, en fait, par rapport à leur territoire qu'ils ont quitté, et comment, en fait, avec ce nouveau territoire, ils ont pu créer quelque chose de nouveau.
C'est justement le thème de l'afro-descendance qui a séduit Abishak Vundi, peintre martiniquaise venue découvrir l'exposition. Elle suit le travail de l'artiste depuis ses débuts.
Il travaille la peau noire, il travaille d'une façon qui, moi, me plaît, qui est un peu nostalgique. Et moi, je suis très heureuse qu'il arrive ici, à Abidjan, pour cette exposition. Il crée un vrai ancrage. C'est cet aspect aussi que je trouve important en tant qu'afro-descendant, en tant que jeune artiste, qu'il puisse s'ancrer sur la terre-mère et qu'il soit accueilli de cette façon.
L'exposition Au-delà du jardin, il y a la mer restera visible à la galerie Cécile Fakouri jusqu'au 28 décembre. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Un reportage que vous réécoutez quand vous le voulez sur notre application RFI Pure Radio. Les grands titres de l'actualité internationale de ce 12 octobre 2024. Deux casques bleus de la Finul blessés par une frappe israélienne hier dans le sud du Liban. Deuxième incident de ce type en 48 heures. Nouveau tollé international. La France convoque l'ambassadeur d'Israël. Déclaration commune aussi entre Emmanuel Macron, Giorgia Meloni et Pedro Sanchez pour condamner des attaques injustifiables qui doivent cesser immédiatement. Joe Biden appelle Israël à ne pas frapper les troupes de la Finul, tout comme Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, que l'on entend dans un quart d'heure dans le prochain journal. Pendant ce temps, à Gaza, la défense civile du territoire a fait état hier soir de la mort de 30 personnes dans une série de frappes israéliennes sur la ville et sur le camp de réfugiés palestiniens de Jabalia. Puis il y avait le prix Nobel de la paix aussi hier, décerné à Nihon Hidanko, l'organisation japonaise représentant les survivants irradiés des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Une association qui poursuit toujours son combat contre les armes nucléaires et contre leur prolifération. Un mot de la situation en Martinique, toujours tendue, malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne sur fond de protestations contre la vie chère. Toute la nuit de jeudi à vendredi, les forces de l'ordre ont tenté de contenir les émeutiers qui ont érigé des dizaines de barrages à travers l'île française. Comme chaque samedi, le rendez-vous avec nos confrères de Jeune Afrique. Le magazine publie une enquête cette semaine sur le sort des anciens chefs d'État africains. Où sont-ils et quelle est leur situation personnelle? Catherine Potet en parle avec François Soudan, directeur de la rédaction du magazine.
À la une de Jeune Afrique cette semaine, une enquête sur les ex-chefs d'État africains qui connaissent des sorts variés. Certains sont en prison, d'autres en exil. Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Jeune Afrique détaille la situation de ces anciens chefs d'État africains. Ils sont une quinzaine. On fait le point avec vous et on commence par les moins chanceux, c'est-à-dire ceux qui sont derrière les barreaux.
Oui, c'est une infographie, Catherine, conçue par Mélisse Dudou et Mathieu Milcamp, qui démontre entre autres à quel point les alternances pacifiques et démocratiques sur le continent, c'est toujours aussi fragile. Alors, première catégorie, vous l'avez dit, ceux qui ont été condamnés, qui sont actuellement en prison, c'est le cas emblématique du Libérien Charles Taylor, arrêté en 2006. Condamné à 50 ans de détention pour crime contre l'humanité et qui purge sa peine actuellement dans la prison de Frankland, dans le nord de l'Angleterre. Le cas aussi du Soudanais Omar el-Béchir, condamné pour corruption en 2019, incarcéré à Khartoum, puis détenu dans un hôpital du nord du pays et dont la CPI réclame en vain l'extradition. Deuxième catégorie, Catherine, ceux qui sont retenus chez eux contre leur gré en résidence étroitement surveillée. C'est évidemment le cas du Nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un putsch militaire il y a maintenant 15 mois. Et que la Cour d'État de Niamey a décidé de poursuivre sous le chef, pour le moins spécieux, de haute trahison. Le cas aussi du Burkinabé Kaboré, retenu depuis janvier 2022 par la junte militaire dans une villa d'Ouagadougou. Le cas également du Mauritanien Mohamed Oud Abdelaziz, qui purge reclus dans un appartement de Nouakchott, une peine de 5 ans de prison pour enrichissement illicite, blanchiment, un jugement qu'il conteste en appel, Catherine.
Et parmi ces chefs d'État toujours en résidence surveillée, vous vous arrêtez notamment sur le cas de l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba, toujours donc en résidence surveillée depuis sa chute en août 2023.
Oui, Ali Bongo Ondimba, depuis septembre 2023, ne fait pas l'objet de poursuites. Bon, il a reçu l'autorisation de quitter sa résidence surveillée de Libreville pour se rendre à l'étranger. Il refuse de partir sans sa femme Sylvia, son fils Nordine, qui sont eux poursuivis et selon nos informations détenus dans les sous-sols du palais du bord de mer. Des négociations sont en cours sur fond de tentatives de récupération de la fortune des Bongo par le nouvel exécutif gabonais, mais elle piétine, Catherine.
Enfin, François Soudan, il y a une troisième catégorie d'anciens chefs d'État africains, celle des exilés. Et là, il y a du monde.
Ah, tout à fait. Le doyen dans tous les sens du terme des exilés s'appelle Mengistu Haile Mariam, l'ancien dictateur éthiopien, condamné à mort par contumace chez lui et qui vit depuis 33 ans dans une villa de Harare au Zimbabwe. Il a aujourd'hui 87 ans. Dans cette catégorie, on trouve aussi le Gambien Yahya Jammeh, chassé du pouvoir, installé depuis 2016 à Malabo en Guinée équatoriale. Le Mauritanien Oultaya, qui vit depuis son renversement il y a près de 20 ans à Doha au Qatar. Le Guinéen Alpha Condé, bien sûr, en exil à Istanbul, mais qui dit se trouver qu'aujourd'hui quelque part en Afrique. Figurent également deux anciens chefs d'État centrafricains, François Bozizé en Guinée-Bissau, Michel Djotodia au Bénin, un Tunisien, Monsef Marzouki, réfugié à Paris depuis qu'il a eu maille à partir avec la justice et surtout avec le régime de Kais Saied, et pas moins de trois Burkinabés, Blaise Compaoré, évidemment chassé du pouvoir il y a 10 ans, exfiltré vers la Côte d'Ivoire, condamné par contumace à la prison à perpétuité. Yacouba Isaac Zida, on s'en souvient à peine, éphémère chef d'État pendant 20 jours suite à la chute de Compaoré en exil au Canada. Et enfin, pour Henri Sandaogo Damiba, colonel putschiste renversé après 8 mois au pouvoir en 2022 par un autre putschiste, le capitaine Ibrahim Traoré, lequel réclame aujourd'hui son extradition auprès des autorités togolaises. Comme vous le voyez, le métier de président a beau être pour certains une rente de situation, il est tout sauf une assurance tout risque. Alors faudra-t-il bientôt ajouter à cette liste, Catherine, les noms de Joseph Kabila et de Macky Sall, qui se trouvent aujourd'hui l'un en Afrique du Sud, l'autre au Maroc. L'avenir le dira.
Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Merci Catherine, on vous retrouve vous tout à l'heure pour les revues de presse dans RFI Matin. Le monde moderne, ou en tout cas l'Occident tel qu'on le connaît au XXIe siècle, ne se serait jamais construit sans l'exploitation de l'Afrique et de ses habitants. L'invité de la rédaction est journaliste et universitaire. Il s'exprime sur notre antenne alors que sort en français la traduction de son dernier ouvrage « Born in Blackness ». En français, « Noires origines ». Il remonte près de 2 siècles avant la colonisation pour montrer comment certains royaumes européens ont eu connaissance des richesses africaines et comment ces royaumes se sont mis à les exploiter. Howard French, l'auteur de cet ouvrage, est l'invité de Laurent Corot.
Bonjour Howard French.
Bonjour Laurent.
Dans Noires origines, vous nous invitez à nous débarrasser d'un certain nombre d'œillères historiques sur la place de l'Afrique dans l'histoire mondiale et sur le rôle essentiel qu'elle a joué dans la construction de l'Occident tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous nous expliquez que l'essor européen a reposé en grande partie sur ses relations avec le continent africain avant même la colonisation.
Effectivement. L'histoire de mon livre commence dans le 14e siècle, au début de ce siècle, quand les Africains, notamment dans l'Empire du Mali, réalisent des contacts avec le Moyen-Orient. Et ce faisant, l'Europe découvre l'existence d'une grande quantité d'or dans le Sahel, ce qu'on appelle le Sahel d'aujourd'hui. Et cela a lancé l'ère de l'exploration, de découverte et la traite d'esclaves.
C'est l'un des points importants de votre ouvrage, Howard French. Vous soutenez la thèse dans ce livre que la recherche avide de cet or africain par les Portugais a été l'un des moteurs des grandes explorations portugaises et que ce moteur a été complètement oublié de l'histoire.
Effectivement, le Portugal avait une rivalité avec l'Espagne et le Portugal avait pris les devants dans l'exploration du Nouveau Monde. À l'époque, le Nouveau Monde n'était pas l'Amérique. Les Européens disaient que l'Afrique sous-saharienne est le Nouveau Monde. En 1471, ils sont arrivés par hasard au pays qu'on appelle aujourd'hui le Ghana. Ils ont découvert que tous les habitants de ce lieu porter des bijoux en or. Ils n'étaient pas arrivés au Mali, mais ils ont réalisé leur but un peu par accident, si vous voulez. Donc, ils ont établi des relations de commerce au début avec les Ghanéens. Les quantités d'or étaient aussi importantes pour le Portugal, qui était un pauvre royaume à l'époque, qu'ils ont renommé leur trésor « Maison de l'Afrique ». À l'époque, après la découverte de l'or au Ghana, à peu près un tiers jusqu'à la moitié des recettes de ce royaume venaient désormais du Ghana.
Quel lien est-ce que vous établissez, Howard French, entre cette exploitation de l'or et le commerce terrible qui va commencer à se développer rapidement ensuite, à savoir la traite esclavagiste?
Le Portugal était un royaume assez pauvre, qui n'avait pas beaucoup de ressources. Et donc, pour financer la recherche de l'or et la construction des bateaux nécessaires à cette recherche, Henri le navigateur et ses hommes ont commencé à faire petit à petit un commerce d'esclaves sur les côtes de l'Afrique. La Mauritanie d'aujourd'hui, au Sénégal, en Guinée, etc. Et les Portugais, à la fin de ce 15e siècle, explorant l'Afrique à la recherche d'autres sources d'or, ils ont découvert l'île de São Tomé qui n'avait pas d'habitants et avait un climat parfait pour la cultivation de la canne à sucre. Et donc, ils ont commencé à cultiver la canne à sucre et toute une industrie est née de cela. Et avec la naissance de cette industrie est aussi née une forme d'exploitation humaine qui n'avait jamais existé auparavant, qu'on appelle en anglais « chattel slavery ». Je pense que ce terme n'existe pas en français. Chattel slavery, c'est une forme d'esclavage où les esclaves sont identifiés et pérennisés à travers des générations. C'est-à-dire, non seulement vous êtes esclave vous-même, mais vos enfants aussi seront esclaves et ainsi de suite pour une éternité.
Et les formes de travail qui sont mises en place dans ces plantations sucrières sont par ailleurs extrêmement brutales pour les esclaves.
Extrêmement brutal. L'espérance de vie d'un esclave mis au travail sur ces plantations à l'époque et aussi par la suite au Brésil et dans les Caraïbes était à peu près 5 ans.
Après la production du sucre, c'est celle du coton qui a été développée par le commerce des esclaves. Au total, au World French, vous décrivez une mécanique qui convertit des vies prises en Afrique en richesses consommées en Europe. Vous montrez finalement comment l'Afrique a joué un rôle essentiel dans la construction du monde atlantique.
Oui, je dirais encore plus que c'est le travail des Africains sous forme d'esclavage qui a rendu possible la rentabilité des colonies qui ont été fondées dans le Nouveau Monde et donc la fondation même de l'Occident. Il est important de remettre l'Afrique à sa propre place dans l'histoire de l'humanité.
Howard French, merci.
Merci beaucoup, Laurent.
Howard French, invité de Laurent Corot pour son ouvrage « Noires origines », publié donc en français aux éditions Calmant Lévy. Il va y avoir du Fela, enfin ce soir, sur la scène parisienne, au New Morning précisément. Nouvelle édition du Fela Day pour célébrer la musique et l'héritage du géant nigérian qui a créé l'Afrobeat. C'est d'ailleurs l'association Afrobeat No Limit qui organise cette soirée, dont Sean Kuti, l'un des fils du musicien, est l'un des invités. Un son toujours vivant, toujours très vivace, Olivier Roger convaincu.
En Occident, on peut interpréter ça comme la journée de Fela. Mais Fela Day, quand on le dit en pidgin, ça veut dire que Fela existe toujours.
Nazer Bello est le producteur du Fela Day, l'initiateur d'une association Afrobeat No Limit qui, depuis près de 20 ans, travaille à la promotion de cette musique.
Heureusement, on constate aujourd'hui que l'Afrobeat résonne bien partout dans le monde, à Londres, à New York, à Tokyo, à Paris surtout, puisque c'est une des premières tailles d'accueil de Fela Nicolas Pokuti.
France, terre d'accueil de l'Afrobeat, mais aussi de musiciens qui ont joué dans les orchestres de Fela, Africa 70 et Egypt 80. C'est le cas du guitariste Kiala Nzavotunga, en répétition toute la semaine à Bobigny avec les musiciens du Fela Day.
Fela Day pour moi c'est très grand parce que moi j'ai joué avec ce grand monsieur, Fela Nicolas Pokuti. J'étais son guitariste, donc je suis content. Avec Fela, j'enregistre cet album Original Sofa Head. C'est grand souvenir, je te jure.
Des souvenirs de Fela, le trompettiste Muyiwa Kunuji en a à l'appel. Il se souvient encore du jour où il a auditionné devant le génial musicien nigérian. C'était en 1981.
When I went for audition, I was just shaking.
Quand je suis arrivé pour l'audition, je tremblais. Et quand il m'a dit « joue ce que tu veux », ma tête s'est littéralement vidée. J'ai juste mis ma trompette à la bouche et j'ai fait de la merde. Après un moment, il m'a dit « arrête ». Il a commencé à me demander de jouer des accords en mi mineur, des trucs comme ça. Et il m'a posé une question qui m'a bluffé. Il voulait connaître la nature de mon son. Avec lui, on pouvait jouer à la perfection, mais si on n'avait pas de son, il pouvait vous dire de revenir dans 6 mois. Et moi, j'ai eu la chance qu'il s'intéresse à mon son.
Le Fela Day sera aussi l'occasion d'écouter les musiciens de la jeune génération et parmi ceux-ci, le saxophoniste de jazz Benoît Croste. Il se souvient de son premier Fela Day, c'était en 2011.
On s'est vraiment plongé dans la musique de Fela d'une façon vraiment quasiment scientifique, c'est-à-dire qu'on l'a pris pour ce qu'elle est. C'est une grande musique classique africaine.
27 ans après sa disparition, Fela est donc toujours d'actualité et sa musique appartient désormais au patrimoine mondial. If you call a woman, African woman, no go green.
Olivier Roger pour le Fela Day ce soir au New Morning à Paris. Arthur Geoffroy a réalisé cette première demi-heure africaine. Merci à lui. L'actualité du continent revient à 4h30 en temps universel pour une nouvelle demi-heure complète avec Sébastien Duhamel. Le journal international dans une minute.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Emiliano González Toro, chanteur d'opéra. Il donne le la de la musique baroque à chaque occasion. Écoutez son retour d'Ulysse dans la patrie de Monteverdi. Mais il sait aussi chanter du Violeta Parra, l'icône chilienne. Bref, vous avez rendez-vous avec un ténor de la mémoire.
en sol majeur. Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à partir de 14h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr. Géopolitique.
Au-delà de la guerre de Gaza et des tensions entre Israël et l'Iran, les recompositions en cours au Moyen-Orient montrent une affirmation certaine de l'autonomie stratégique de plusieurs puissances régionales, de même qu'un basculement géopolitique au profit de la Russie et de la Chine. Dans quelle mesure la situation actuelle confirme et renforce cette évolution ? Éclairage avec des spécialistes.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI.